Nous allons commencer par la chronique de Véronique Bonnet, Partagé et bon. Une chronique sur le thème du logiciel libre et du traçage, enregistrée il y a quelques jours. Je vous propose donc d'écouter Véronique et on se retrouve dans une dizaine de minutes, toujours sur Cause Commune, la voie des possibles.
Logiciel libre et traçage. Le logiciel libre permettrait-il de limiter le traçage, c'est-à-dire la récolte de nos données, de nos métadonnées, dans des intentions soit strictement commerciales et irrespectueuses, soit malveillantes, au sens d'une surveillance qui irait au-delà même d'intérêts commerciaux déjà très discutables, puisqu'on peut être amené à être harcelé par ceux qui, achetant nos données, nous ciblent et nous profilent. Alors commençons d'abord par nous étonner, puisque la trace dans l'histoire de la philosophie, bon, dans l'histoire de l'archéologie, dans d'autres disciplines, est bien sûr une notion positive. La trace, l'ombre, l'image, image veut dire initialement trace aussi, sont des indices. Et donc les traces permettent de faire des hypothèses. La trace est précieuse pour réfléchir. Le paradoxe est que dans nos pratiques informatiques, on suit, lorsque il n'y a pas donc de démarche prudente, on suit lorsqu'un internaute, lorsqu'un utilisateur a fait une requête, par exemple, on va suivre ses traces pour harceler, pour prétendre anticiper les désirs et surtout pour faire de ces traces ce qui est monnayable. Il va y avoir revente des informations à des entreprises. Alors, les dispositifs qui permettent de récolter les traces sont multiples. D'abord, l'opacité du code, du fait des brevets logiciels. Comme on ne sait pas exactement ce que fait un programme, lorsque ce programme relève de l'informatique propriétaire, alors bien évidemment, il est facile de suivre quelqu'un pour l'amener à être un consommateur soit captif, soit très influencé. On peut penser aussi aux DRM, des e-books. On peut penser aux portes dérobées qui sont des dispositifs qui portent atteinte aux personnes. Notre adresse IP accompagne toutes nos requêtes qui peuvent être gardées en mémoire et être agrégées à d'autres informations qui nous concernent et ne devrait concerner que nous pour aboutir à des profilages, à des ciblages. On peut penser aussi aux envois de mails, sans qu'il soit besoin que l'on connaisse d'ailleurs le contenu du mail. Ce qui importe, c'est de savoir, pour ceux qui récoltent les métadonnées, à qui on écrit, à quelle fréquence, quand. Ce qui relève bien donc de la métadonnée, c'est-à-dire de la structure de la donnée, qui permet de disposer de graphes, de dessins, de nos fréquentations, ce que l'on nomme le sociographe. Il se trouve que le logiciel libre permettrait de limiter ce pillage de notre vie privée à deux titres. Alors le premier, on pourrait dire que les libristes sont des lanceurs d'alerte concernant l'écriture du code, dont la transparence est pour eux essentielle. Deuxième point, les libristes proposent à l'utilisateur de rester le chef d'orchestre de son informatique. Alors je m'explique. D'abord, le premier axe, lanceur d'alerte, nous sommes sensibilisés à la possibilité qu'un programme soit intrusif lorsqu'on n'a pas accès à son code source et bien sûr un danger. au sens où ne pas avoir accès à un compte source, c'est pouvoir se trouver piégé, c'est ne pas savoir exactement ce que le programme exécute. Il se trouve que nous avons répertorié 4 dangers qui se rapprochent de ce profilage ou de ce traçage. Alors le premier, bien sûr, les brevets logiciels. À moins de faire une rétro-ingénierie complexe qui est déjà très difficile pour les spécialistes, s'il y a copyright, s'il y a brevet logiciel, alors il y a une opacité qui permet de faire de nos requêtes et des traces laissées par nos requêtes tout et n'importe quoi. Deuxième danger, les DRM. Les DRM des e-books qui, par exemple, enregistrent ce qu'un lecteur regarde dans un livre, ce qu'il lit plusieurs fois, les passages qu'il laisse de côté, ceux auxquels il revient toujours. Troisième danger, la vente liée, qui rend difficile, puisque la plupart du temps, on achète des ordinateurs qui sont déjà équipés d'une informatique propriétaire. Il se trouve que cette vente liée rend parfois difficile parce qu'il y a des dispositifs qui empêchent cela, qui rend parfois difficile de basculer un ordinateur sous GNU Linux s'il est déjà équipé autrement. Enfin, danger de l'informatique déloyale qui se présente faussement comme une informatique de la confiance. Deuxième axe, il se trouve que les libristes, étant donné cette mise en garde contre les 4 dangers, notamment, il se trouve que les libristes proposent aux utilisateurs de rester des chefs d'orchestre. Et pour cela, il est important d'assurer la lisibilité du code en publiant le code source pour assurer les 4 libertés, exécuter le programme en toute confiance, l'étudier, l'améliorer, distribuer des versions modifiées ou non à ceux qui, recevant ces programmes de l'informatique libre, sauront qu'ils sont moins traqués, moins surveillés, moins harcelés. Alors d'où vient ce terme de chef d'orchestre ? Pourquoi dire que les libristes proposent aux utilisateurs de rester des chefs d'orchestre ? C'est un philosophe du XXe siècle, Gilbert Simondon, qui utilise cette image dans un texte qui est important pour nous, qui s'appelle « Du mode d'existence des objets techniques ». Alors, quelle est la thèse qu'il y défend ? Il montre que la perfection technique, ce n'est pas l'automatisme, c'est précisément l'indétermination. C'est le fait qu'une machine ou un objet technique puisse être facilement associé à différents usages et notamment puisse être adapté. Et Simondon parle alors de machine ouverte. Machine ouverte qui l'oppose aux machines fermées, celles dans lesquelles l'utilisateur n'a absolument aucune initiative et contraint de se fier à des automatismes qu'il ne comprend pas. Je vais lire dans ce texte de Simondon, sa définition de la machine ouverte. Elle suppose l'homme ou l'humain comme organisateur permanent, comme interprète vivant des machines, les unes par rapport aux autres, et qui ont besoin de lui comme les musiciens ont besoin d'un chef d'orchestre. Lanceur d'alerte, nous sommes un peu comme ces chefs d'orchestre qui ont besoin, les savoir-faire des musiciens étant disponibles, de constituer des variantes parce que à ce moment, c'est telle musique qu'on a envie d'écouter. Étienne, te sens-tu un peu chef d'orchestre dans toutes tes pratiques de sensibilisation ?
Disons que j'essaie de l'être au maximum, mais j'ai aussi conscience que c'est avec l'aide d'autres personnes qui peuvent avoir sur certains points de plus grandes connaissances que moi, et en étant dans la mesure d'échanger avec eux et de leur faire confiance sur des bases saines de transparence, notamment que tu as évoquées, que je peux me sentir, on va dire, pleinement chef d'orchestre dans mes usages.
Et il me semble que cette image est intéressante puisque elle encore, elle joue sur toutes les dimensions, c'est-à-dire que le logiciel libre n'est pas simplement ce qui permet de faire des opérations, mais aussi ce qui permet de mettre une forme de musique dans sa vie, qui est peut-être ce rapport aux autres, en effet.
C'est très joliment dit. Je vais me permettre une très légère précision par rapport à ce que tu as dit au moment dans ta chronique, que tu as parlé de brevets et de droits d'auteur. Il me semble peut-être juste important de préciser pour les personnes qui ne sont pas familières de ces notions qu'effectivement ce sont deux institutions juridiques distinctes, hein, qui ont leurs propres règles, leur propre fonctionnement, et que d'un côté effectivement le droit d'auteur, le copyright aux États-Unis peut servir d'assise, hein, pour des éditeurs de logiciels, les auteurs de logiciels, pour priver les utilisateurs et les utilisatrices de leurs libertés fondamentales, de leurs quatre libertés essentielles, hein, d'utilisation, de modification, de partage, de redistribution. Les brevets, en ce qui concerne les logiciels, sont eux intrinsèquement liberticides, parce que c'est vraiment l'intelligence même, l'intelligence logicielle qui cherche à accaparer et à empêcher. Mais dans les deux cas, bien sûr, qu'on parle de logiciels privateurs ou de brevets logiciels, qui sont d'ailleurs illicites en Europe, quand on parle de l'un ou l'autre, on est vraiment effectivement dans des problématiques d'aliénation de nos droits qui nous empêchent d'être chef d'orchestre et d'avoir cette musique commune que tu as si bien décrite.
Exactement. Ce que tu dis là me rappelle tout à fait le juriste Lessig, qui dans Cowdy's Law montre que c'est parfois l'architecture logicielle elle-même, lorsqu'elle est extrêmement intrusive, qui prétend faire la loi.
Bah, le logiciel fait loi. La question, c'est comment cette loi a-t-elle été conçue, sur des bases démocratiques saines, comme dans le cadre du logiciel libre, ou de manière, on va dire, tyrannique, pour reprendre un terme fort, comme c'est le cas finalement de logiciels privateurs. Un grand merci, Véronique, pour cette nouvelle chronique partagée et bon. Je te dis au mois prochain pour une nouvelle chronique. Donc.
Très belle journée à toi, Étienne.